BW. Vue d'Allemagne.
Ein Gesetz für faire Lieferketten. Was ist das eigentlich?
Une loi pour des chaînes d'approvisionnement justes, loyales, respectueuses des travailleurs et de l'environnement. Qu'est-ce que c'est ? Demande la voix de ce clip de communication du ministère fédéral allemand de la coopération économique. Et bien justement, on se penche sur le sujet aujourd'hui dans Vue d'Allemagne, parce que le gouvernement fédéral allemand annonce une loi pour que les entreprises du pays ne vendent plus de jeans faits par des femmes exploitées ou des ordinateurs contenant du cobalt extrait par des enfants en RDC. Une loi qui crée du remous dans le milieu politique, les entreprises et la société civile. Et puis du remous aussi en Israël, à un peu plus d'un mois des élections du 23 mars, le pays est champion de la vaccination, sur laquelle compte le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou pour être réélu. Mais pas de quoi pour autant calmer la contestation contre lui, vous l'entendrez. Guten Tag, bonjour à toutes et à tous, willkommen, je vous souhaite la bienvenue. Los geht's, c'est parti. La Lieferkettengesetz, la loi relative aux chaînes d'approvisionnement, arrive donc en Allemagne. Nom un peu lourd, mais sujet important, on va le voir. D'ailleurs, pour marquer le coup, il y avait pas moins de 3 ministres pour annoncer l'arrivée de cette loi devant la presse la semaine dernière. Les ministres du Développement, Gerd Müller, du Travail, Hubertus Heil, et de l'Économie, Peter Altmaier. Alors, de quoi parle-t-on ? Eh bien, cette loi, en fait, doit mettre les entreprises devant leurs responsabilités et empêcher l'exploitation des travailleurs ou des enfants, permettre d'assurer que les droits humains soient respectés dans le commerce mondial. En plus clair, par exemple, éviter qu'une ouvrière bangladaise soit exploitée lorsqu'elle fabrique des vêtements pour l'Allemagne ou qu'un ordinateur soit fabriqué avec du cobalt récolté par un enfant congolais. Pour ça, les entreprises devraient assurer qu'elles ont à vérifier les conditions de travail pour leurs salariés et ceux d'autres entreprises qui travaillent pour elles, et assurer donc qu'elle respecte bien la dignité humaine et les droits sociaux. Les débats autour de telles lois se sont multipliés en Occident depuis plusieurs années, notamment depuis la catastrophe textile du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Vous vous en souvenez peut-être, plus de 1000 personnes étaient mortes après l'effondrement d'ateliers textiles, des usines où travaillaient des milliers de personnes pour diverses marques de vêtements, dont plusieurs européennes. Ainsi, la pression s'est accentuée sur les marques et les politiques. Alors en Allemagne, on a promis une loi, mais les divisions étaient profondes au sein de la grande coalition au pouvoir actuellement, et le lobby des entreprises important aussi. Ainsi, plus beaucoup de monde ne croyait à l'écriture d'une telle loi avant les prochaines élections en septembre. Mais finalement, ministres du Développement, du Travail et de l'Économie ont réussi à trouver un compromis sur les conditions d'un tel texte. Compromis annoncé comme une avancée majeure, une première en Europe par le ministre fédéral de la coopération, Gerd Müller.
Das Lieferkettengesetz kommt.
C'est un compromis, oui, mais une étape importante qui sera suivie par d'autres. Et c'est aussi un signal fort adressé à l'Europe, aux entreprises et à nous tous, à vous, aux consommateurs. Notre objectif commun est de faire respecter les normes fondamentales en matière de droits humains dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Notre objectif est de mettre un terme au travail des enfants et à l'exploitation des hommes et de la nature dans les pays en développement.
Alors la loi n'est pas écrite encore, en tout cas pas publiée, ni même présentée. Cela doit être fait d'ici un mois, mais on en connaît déjà les contours des grandes lignes présentées par le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales, Hubertus Heil.
Nous pourrons imposer des sanctions en cas de doute pour les violations de la loi avec des mesures coercitives et des amendes. Nous ne parlons pas de contraventions faibles, mais de sanctions appropriées liées au chiffre d'affaires total des entreprises. En outre, les entreprises qui enfreignent les obligations pourront également être exclues des appels d'offres publics pour une durée maximale de 3 ans. Cette loi sur les chaînes d'approvisionnement est une loi importante. Il ne s'agit pas seulement de documentation, mais d'une application efficace des obligations des entreprises.
Et le ministre de parler de grands jours pour les droits humains. Alors oui, mais non, répondent beaucoup. Ils n'ont pas attendu longtemps d'ailleurs après la conférence de presse qu'on vient d'entendre en fin de semaine dernière pour monter au créneau. Pourquoi ? Eh bien parce que la loi prévue pour 2023 ne concernera d'abord que les entreprises de plus de 3000 salariés, puis 1000 dès 2024, et puis parce que les règles à respecter sont trop laxistes, disent beaucoup. C'est le cas de la députée Renate Künast des Verts. Elle parle d'un projet de loi médiocre auquel il manque de nombreux points.
Premièrement, les entreprises ne devraient avoir que des obligations et la responsabilité d'une analyse des risques envers ceux qui les fournissent directement. Pour tout le reste de la chaîne, cela n'est pas inclus. Pour les étapes suivantes, on nous dit que les personnes concernées doivent se plaindre. Mais comment s'imaginer cela concrètement? Un travailleur des mines du Congo, une couturière du Bangladesh ou de nombreux autres Ouïghours de Chine soumis au travail forcé, par exemple, devraient alors se plaindre personnellement? Comment est-ce que ça peut marcher, s'il vous plaît? Ça ne peut pas marcher.
Un argument repris par l'ONG Greenpeace, qui a d'ailleurs mené une action cette semaine projetant l'inscription « Loi sur les chaînes d'approvisionnement escroquerie » sur les murs de la chancellerie fédérale à Berlin, les bureaux d'Angela Merkel. Action matinale pour Viola Vollgemuth, expert en matière de consommation chez Greenpeace, qui s'indigne sur Twitter que toute la chaîne de production ne soit pas soumise aux mêmes règles.
Le ministère de l'économie et Peter Altmaier ont totalement sapé cette loi. Ainsi, la responsabilité n'est pas incluse tout au long de la chaîne d'approvisionnement, mais concerne seulement le dernier fournisseur direct, alors que dans certaines chaînes d'approvisionnement, il y a plus de 100 étapes entre les deux. Nous savons qu'une loi sur la chaîne d'approvisionnement n'est efficace que si elle permet de prévenir la criminalité humaine et environnementale sur le terrain.
Elle est partisane d'une loi plus dure, évoque aussi la question de la responsabilité civile devant les tribunaux. Car si on parle d'amende pour les entreprises, certaines aimeraient qu'elles puissent être condamnées plus facilement devant la justice, devant les tribunaux. Pour l'heure, il est seulement prévu que des ONG ou des syndicats puissent mener des actions en justice au nom des personnes maltraitées dans la chaîne d'approvisionnement. Des détails juridiques capitaux pour ONG et syndicats qui comptent maintenir la pression jusqu'à la présentation de la loi devant le cabinet fédéral, le gouvernement en entier. Cela est prévu donc pour le mois prochain. L'idée serait de faire passer la loi devant les députés ensuite, avant le mois de septembre et les élections. Jérusalem, tube de l'an dernier venu d'Afrique du Sud. Alors pourquoi dans Vue d'Allemagne aujourd'hui? Eh bien parce que la chanson vient de coûter cher à la police allemande. Le ministère régional de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie vient de recevoir une facture de la maison de disques Warner, propriétaire des droits de cette musique. Motif, les policiers du Land se sont filmés en train de danser sur la musique et ont posté cela sur les réseaux sociaux. Ils doivent donc payer des droits d'auteur. La facture a été réglée. On ne connaît pas son montant, mais il est conséquent, dit le ministère de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Vue d'Allemagne, deuxième partie, on prend la direction d'Israël à présent, où l'allègement des mesures de restriction sociale face à la pandémie de coronavirus a été annoncé sur place en début de semaine. Des magasins, des marchés et des musées vont pouvoir rouvrir dès le 21 février. Certaines salles de sport, de spectacle ou des hôtels seront aussi rouverts aux personnes vaccinées. Des personnes nombreuses, en moins de 2 mois, 45% de la population est déjà vaccinée contre le coronavirus, dont 80% des plus de 60 ans. Ça représente quelque 4 millions de personnes. Un succès pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Oui, mais il y a un mais. Les manifestations contre les mesures se sont multipliées aussi les dernières semaines. Le parti travailliste a même récemment quitté la coalition gouvernementale. En plus, le Premier ministre a plusieurs procès sur le dos et les manifestations pour sa démission se multiplient. Contexte compliqué donc, alors que de nouvelles élections législatives doivent avoir lieu le 21 mars, dans un peu plus d'un mois. Des élections où le Premier ministre Benjamin Netanyahou joue son avenir politique. Compromis donc. Reportage justement au milieu de la contestation contre ce Premier ministre sur place, signé Hélène Machlin.
Pour beaucoup d'Israéliens, le chef d'État essaie de sauver sa peau en affichant des taux de vaccination records. Mais la crise sanitaire et économique qui bouscule le pays ne cesse d'empirer. Et à la veille des élections législatives, la colère gronde chez ces Israéliens qui manifestent sans relâche depuis 36 semaines. Yaeli, mère de famille et commerçante à Tel Aviv, s'est retrouvée sans revenus dès le début de la crise du Covid.
Nous sommes dirigés par un gouvernement qui nous écrase. Le coût de la vie est vraiment trop élevé. Les personnes âgées vieillissent dans une pauvreté inimaginable. Il y a dans ce pays tellement d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui ont faim, qui vont dormir le soir sans avoir mangé. Dans cette manifestation, vous ne verrez que des gens bien. Il y a même des personnes âgées, des adolescents, des enfants, des handicapés qui défilent en chaise roulante et en béquille. Regardez ! Ces manifestants viennent du quartier arabe de Silouane. On ne va pas arrêter d'espérer un avenir meilleur pour tous les citoyens et les citoyennes. On se battra pour ça jusqu'au bout.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a de nouveau rejeté les accusations de corruption pesant contre lui lors d'une brève comparution au tribunal de Jérusalem, à 6 semaines d'élections cruciales pour sa survie politique. Inon a 51 ans, père de famille et patriote, il se dit très inquiet pour l'avenir du pays.
Ce qu'on constate maintenant pendant ce troisième confinement, c'est que la crise liée à la pandémie ne s'améliore pas, malgré les vaccinations. Il n'y a pas moins de contamination, malgré le confinement. Ce gouvernement n'agit pas dans l'intérêt des citoyens. Il agit seulement dans l'intérêt personnel du Premier ministre en essayant de faire annuler son procès. Mais ça n'est pas tout. Lors du dernier confinement, son procès a été repoussé et le gouvernement a annoncé que les tribunaux seraient fermés à cause de la pandémie. Mais finalement, tous les tribunaux sont restés ouverts et tous les procès ont bien eu lieu, sauf celui de Bibi. Il essaie d'influencer et de repousser son procès grâce à sa position de chef d'État. La situation avec Bibi est extrêmement compliquée. D'abord, il détient le record de longévité des premiers ministres israéliens. Ensuite, c'est le premier chef de gouvernement en fonction attaqué en justice. C'est un conflit qui n'aurait jamais dû arriver dans un pays comme Israël. À notre grand regret, la loi israélienne n'avait pas prévu qu'il y aurait une personne qui est à la fois premier ministre et qui agit contre l'État. Finalement, le plus absurde dans cette situation, c'est qu'il peut continuer de diriger le pays alors qu'il est jugé pour corruption, fraude et abus de confiance.
La bataille électorale est d'ailleurs loin d'être gagnée pour M. Netanyahou, qui espère rallier une majorité de sièges afin de faire voter une loi qui lui assurerait une immunité judiciaire. D'après le très récent sondage du quotidien Israël Hayom, 32% des citoyens choisiraient malgré tout Benjamin Netanyahou s'il pouvait élire directement un candidat. À Jérusalem, Hélène Maclin pour la Deutsche Welle.
Élection donc prévue le 21 mars sur place. On en reparlera évidemment sur cette antenne. En attendant, vue d'Allemagne, eh bien, ça se termine pour aujourd'hui. Je vous renvoie sur notre site et les applications de podcast pour d'autres infos et d'autres numéros. Et puis, je vous donne rendez-vous avec Anne Letouze la semaine prochaine pour un nouveau vue d'Allemagne. D'ici là, alles Gute, portez-vous bien et à très bientôt. Tschüss !